Europe 1, il est 6h.
Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies.
Une parole rare ce matin sur Europe 1, celle du chef de la police de Houston. « Gardez votre bouche fermée », avait-il lancé à Donald Trump. Entretien singulier ce matin sur Europe 1. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré n'est pas indépendante, dénonce l'avocat de la famille. Il demande que l'inspection générale de la gendarmerie soit dessaisie. Des salariés poussés à démissionner ou à baisser leur salaire en dehors de tout cadre légal. La crise économique pousserait certains patrons à flirter avec les limites du droit du travail.
Il y a bien eu des pressions qui ont été faites. On les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ici il y a un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Dans ce journal, le coup de pouce du gouvernement pour l'apprentissage et puis les récoltes agricoles en Provence, bouleversées par l'apparition de clusters du coronavirus. Les exploitants font tout pour les contenir.
On se sécurise, on va faire les tests. Qui peut savoir aujourd'hui, sur son exploitation, s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectée? On ne sait pas.
Juste après le journal, mon invité inattendu, le chanteur du groupe Boulevard Désert en concert ce soir en drive-in. Concert face à des voitures, 6h25. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen et l'émulation autour de la finale de Koh-Lanta ce soir. Il est 6h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Entretien événement ce matin sur Europe 1. Le chef de la police de Houston au Texas, Art Acevedo. Houston où a grandi George Floyd, mort étouffé il y a 10 jours à Minneapolis. Lors de son interpellation par la police, Houston où George Floyd sera honoré lundi. Cérémonie d'hommage avant ses obsèques le lendemain.
Art Acevedo qui a eu cette phrase il y a quelques jours à l'attention de Donald Trump. « Gardez votre bouche fermée », avait-il lancé sur CNN après que le président américain avait menacé d'envoyer l'armée contre les manifestants après des débordements.
Aujourd'hui sur Europe 1, Art Acevedo appelle à l'apaisement.
Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies, qui favorise la confiance, qui favorise la responsabilité et qui automatiquement amène à la paix et à la réconciliation. Il faut aller de l'avant et nous espérons que le président sera dans un discours plus constructif avec le peuple américain. Alors j'espère qu'on pourra s'aimer les uns les autres et en fin de compte arriver à des lois et à une politique qui mette à l'écart les officiers qui violent le serment de confiance. Parce qu'ils ne sont plus des policiers. Et parce que ceux qui font bien leur travail méritent que l'on fasse tout notre possible pour écarter tous ceux qui violent le code d'honneur de la police américaine.
Et hier soir, à Minneapolis, un premier hommage à George Floyd. La famille, des politiques, mais aussi des célébrités rassemblées autour du cercueil à l'université chrétienne North Central. « Tu as changé le monde, George », a dit le pasteur défenseur des droits civiques Al Sharpton dans un émouvant éloge funèbre.
Et partout dans le monde, partout dans le pays, les manifestations continuent avec beaucoup moins de débordements.
Europe 1, il est 6h03.
L'avocat de la famille d'Adama Traoré demande que l'inspection générale de la gendarmerie nationale soit dessaisie de l'enquête sur le décès du jeune homme, mort il y a 4 ans après une interpellation.
Maître Yacine Bouzrou pointe un courrier de soutien envoyé par le directeur général de la gendarmerie nationale aux militaires mis en cause. Le magistrat demande que l'enquête passe aux mains de la police.
Il n'est pas normal que le directeur général de la gendarmerie nationale prenne position en expliquant qu'il a toute confiance. En ce qui concerne l'interpellation d'Adama Traoré, il n'a pas le droit de dire ça car les gendarmes chargés de l'enquête sont sous son autorité. Donc il n'a pas le droit de prendre position et ça porte atteinte à l'enquête judiciaire et surtout à la séparation des pouvoirs. Donc nous estimons aujourd'hui que les gendarmes ne sont plus aptes à diriger l'enquête et nous souhaitons que la brigade criminelle puisse continuer afin que les investigations puissent se dérouler en toute sérénité. C'est une forme de pression non seulement sur les enquêteurs sous son autorité, mais également à l'égard des magistrats. Cela démontre malheureusement ce que nous craignons, c'est-à-dire qu'il y a des pressions dans le cadre de l'enquête. Et donc aujourd'hui, nous comprenons peut-être pourquoi l'enquête, malheureusement, ne se déroule pas correctement.
Maître Yacine Bouzrou, joint pour Europe 1 par Chloé Triomphe.
Comme les soignants et personnels des EHPAD, les travailleurs des secteurs sociaux et médico-sociaux pourraient aussi toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation face au coronavirus.
Entre 1 000 et 1 500 euros, souhait du gouvernement qu'Europe 1 vous révèle ce matin.
La crise économique frappe et bouleverse de nombreuses entreprises en France. Pour tenter de s'en sortir, certains employeurs tentent parfois de s'arranger avec le droit du travail, flirtant avec les limites de la loi. Des dérives que dénoncent de plus en plus syndicats et avocats. Simon Rubin.
Dans son cabinet parisien, Emmanuel Gaïa, avocat en droit du travail, reçoit depuis 2 mois des centaines d'appels à l'aide de salariés. Parmi les cas récurrents, de plus en plus d'employés dénoncent la pression exercée par leur patron. Dans certains cas, l'employeur profite de la crise pour baisser les salaires en dehors de tout cadre légal.
J'ai bien vu un dossier comme ça où des salariés d'une société informatique se sont vus proposer des réductions de salaire de façon informelle et sans que les instances représentatives du personnel ne soient consultées. Et donc, il y a bien eu des pressions qui ont été faites. On les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Autres exemples, ce salarié poussé à démissionner par son patron au motif qu'il faut soulager l'entreprise en dehors de tout cadre légal. Ou encore, ces nombreux cas de retard de paie ou ces salariés contraints d'accepter un changement de poste sous la menace d'un licenciement. Des pratiques qui ont cours pour la majeure partie dans les petites et moyennes entreprises.
Il a aussi été question d'emploi hier à l'Élysée. Comment éviter un chômage de masse dans les mois à venir ? Le gouvernement érige en priorité l'apprentissage.
Des centaines de milliers de jeunes pourraient se retrouver sans contrat à la rentrée prochaine, faute de trésorerie dans les entreprises. Carole Ferry, la ministre du Travail, a annoncé une aide financière.
Les entreprises qui acceptent de prendre un jeune en alternance auront le droit à une aide de 8 000 euros sur l'année, 5 000 euros pour les mineurs. Une aide sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres, il faudra s'engager à embaucher 5 % d'alternants l'an prochain ou bien il faudra rembourser. C'était la mesure la plus attendue. Elle sera mise en place très rapidement, dès le mois de juillet et jusqu'à fin février. Par ailleurs, elle concernera toutes les formations du CAP à la licence pro. L'objectif, c'est vraiment de motiver les entreprises qui avaient beaucoup de mal à s'engager pour la rentrée sans visibilité à long terme. Pour les jeunes qui vont débuter leur année sans entreprise, eh bien normalement, ils ont 3 mois pour en trouver une, sinon ils doivent quitter l'école. Cette année, ils vont pouvoir rester en formation pendant 6 mois, même quand ils n'ont pas d'entreprise pour les accueillir. Enfin, le gouvernement va financer l'achat d'ordinateurs pour faciliter leur apprentissage.
Un mot de l'actualité à l'étranger. On l'apprend ce matin, le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a trouvé refuge à l'ambassade de France à Caracas. Le président Nicolas Maduro avait laissé entendre il y a 3 jours que son rival se trouvait bien dans une représentation diplomatique.
Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite du journal de 6h et un premier cluster de coronavirus découvert chez des saisonniers provençaux.
Et puis certains EHPAD renoncent à organiser la fête des mères dimanche. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h09, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Plusieurs clusters détectés dans le Vaucluse et surtout les Bouches-du-Rhône. Parmi des travailleurs agricoles, au moins 30 de malades sur plusieurs sites.
Au sein d'une main-d'œuvre étrangère, qualifiée et recherchée pour la récolte de fruits et légumes, des travailleurs qui pourraient désormais faire défaut en raison de cette situation sanitaire. Comme l'a constaté Nathalie Chevance, à Noves, dans le nord des Bouches-du-Rhône.
Un camping au milieu des champs, c'est là que sont rassemblés 130 travailleurs étrangers, dont une dizaine testés positifs au Covid. Quatorzaine obligatoire pour tous, dans des conditions pas toujours bien acceptées, puisque 2 d'entre eux ont voulu s'échapper. Manque de surveillance des services de l'État, c'est ce que dénonce Jean-Philippe Matéki, adjoint au maire de Noves.
2 travailleurs espagnols qui voulaient rejoindre leur pays. À leur décharge, ils ne sont plus payés. J'imagine qu'on a eu un défaut de pédagogie et qu'on aurait peut-être dû maintenir la présence des médecins ou des psychologues. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site. Il peut y avoir d'autres cas, ce qui génère pas mal d'inquiétudes pour les habitants.
Car ces ouvriers travaillent souvent sur plusieurs exploitations, ce qui peut favoriser la propagation du virus. Résultat, quelques 2000 tests sont lancés, ce dont se félicite Patrick Lévesque, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
On se sécurise, on va faire les tests. Beaucoup d'employeurs de main-d'œuvre amènent leurs salariés pour se faire détecter. Qui peut savoir aujourd'hui sur son exploitation s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectée? infectés. On ne sait pas.
Et les résultats de tous ces tests seront connus dans les prochains jours. Un épisode dont les agriculteurs se seraient bien passés en pleine période de récolte. Nov, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les visites dans les EHPAD, toujours réglementées, mais assouplissement à partir d'aujourd'hui. Deux visiteurs possibles désormais pour les visites en chambre. En extérieur, pas de restrictions. Et même les petits-enfants mineurs peuvent venir, mais seulement équipés d'un masque.
Des maisons de retraite où cette année, la fête des mères, dimanche, sera un peu moins festive. Impossible d'honorer toutes les demandes de visite. Certains établissements renoncent même à organiser l'événement. Il sera alors possible de déposer des fleurs à l'entrée, remises ces fleurs dimanche aux résidents.
Et justement, cette fête des mères dimanche, les 14 000 fleuristes de France l'attendent impatiemment. Rendez-vous capital. En moyenne, c'est 8 à 10% du chiffre d'affaires de l'année sur cette seule journée.
Bonjour Florent Moreau.
Bonjour.
Vous êtes fleuriste à Saint-Laurent, sur Sèvres, en Vendée, et président de la Fédération française des artisans fleuristes. D'abord, le confinement a été rude pour la profession, on en avait parlé, notamment autour du muguet du 1er mai. Comment s'est passée la réouverture pour vous déjà? Est-ce que les clients sont revenus?
Alors, les clients sont revenus, la réouverture s'est très très bien passée, avec une activité assez forte.
Alors, dans quelle mesure assez forte, c'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les ventes sont au rendez-vous. Alors, les clients, en fait, avaient besoin de se faire plaisir avec des fleurs et de fleurir la maison, de fleurir également leurs proches. Donc, effectivement, voilà, une période d'activité assez dense et un niveau d'activité assez important.
Alors, vous dites que les clients sont revenus, mais vous pensez que la crise va tout de même laisser des traces, des boutiques pourraient fermer. Est-ce que vous avez déjà eu une idée, une estimation, combien, selon vous, en France?
Aujourd'hui, effectivement, on a une inquiétude par rapport à certains fleuristes qui pourraient être en danger, aux environs de 10 à 15% des fleuristes en France. Alors, pas forcément à court terme, mais plutôt sur moyen terme, donc à 6 mois ou un an. Il y a certaines boutiques, quasiment 10% des boutiques qui pourraient ne pas se relever.
Et donc, si je comprends bien, dimanche, quand on vient vous voir, on achète des fleurs, on fait plaisir à sa maman et on sauve peut-être un fleuriste.
C'est tout à fait.
Merci Florent Moreau, fleuriste à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée et président de la Fédération française des artisans fleuristes. Merci d'avoir été ce matin en direct l'invité du journal de 6h d'Europe 1.
Et puis les premiers visiteurs sont attendus dès 9h tout à l'heure. Réouverture aujourd'hui du château de Chambord. Port du masque obligatoire et sens de circulation pour la visite. 1000 à 1500 personnes par jour accueillies dans un premier temps. C'est moitié moins que d'habitude.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 6h. À 6h30 tout à l'heure, nous serons avec François Geffrier. Europe 1.